Pomme, pomme, pomme. Ah non, excusez-moi. Salut les poditeurs, vendredi 21 janvier 2011, 19h, bienvenue dans ce News Talk numéro. Numéro, attendez, je vais vérifier, numéro 7. Déjà, numéro 7. Salut Adrien.
Salut,
Salut Antoine.
comment vas-tu?
Eh ben très bien. Salut Antoine.
Bah salut et merci de nous avoir invités, hein. On est hyper content d'être là.
Alors, vous êtes deux des quatre animateurs de Polygeek, qui est le seul podcast qui, à ma connaissance, parle de politique dans la podcastosphère francophone. Donc c'est un super
Oui.
podcast, hein, je tiens à le préciser, c'est hautement
Merci.
recommandable. Et donc c'est enregistré le mardi soir à 19h, donc en live sur polygeek.fr et rediffusé 3 fois par semaine sur Pod Radio en différé. Appréciez le placement produit. Bref, c'est pas tout ça, mais donc si je vous ai fait venir ici, c'est pas pour parler de votre podcast, enfin un petit peu quand même, mais pas trop non plus. Non, j'avais plutôt envie de vous inviter pour votre connaissance politique, parce que vous avez quand même de l'expérience dans ce domaine. Et étant donné qu'on a parlé de politique au News Talk 2 sur DSK, je sais pas si vous avez écouté l'épisode. C'est pas grave si vous l'avez pas écouté, parce qu'il y a tellement peu de gens qui l'ont écouté que c'est pas.
Oh, non, non, non. On a écouté une bonne partie de cet épisode, il n'y a pas de
Ah,
souci.
c'est vrai? Ah, c'est super. Donc, il me paraissait intéressant de revenir 5 numéros après sur la conjoncture politique. Et qui dit conjoncture politique dit forcément
2012.
2012.
2012.
La présidentielle. Présidentielle.
Élysée 2012.
Voilà.
Vous noterez qu'il a préparé, hein, c'est la classe hein, quand même ici. Hein.
Classe.
Bien dit,
Voilà. Dans très exactement 15 mois et un jour, le dimanche 22 avril 2012, ce sera le premier tour de la présidentielle et la campagne a plus ou moins commencé. Comme l'atteste donc justement ce que je viens de passer comme jingle, le nombre d'émissions politiques qui se créent plus ou moins sur cet événement. Il faut savoir quand même qu'il y a BFM TV 2012, qu'il y a iTélé en route vers la présidentielle, et qu'il y en a plein d'autres hein, sur plein de chaînes d'infos. Et justement, comme vous êtes plutôt bien placé pour en parler, et bah on va en parler, on fera le tour des enjeux partie par partie. Voilà, mais comme la présidentielle, c'est dans plus d'un an, et qu'avant 2012, il y a...
2011.
Voilà, c'est bien, vous suivez.
Il est plus fort en maths que moi, c'est pour ça que j'ai pas répondu.
Donc on parlera des réformes... ouais, le thésard, tu peux parler. On parlera des réformes que veut entreprendre Nicolas Sarkozy en 2011, au menu fiscalité, Hadopi 3 et jurés populaires. Alors juste avant de balancer le jingle, je voulais juste remercier Will de m'avoir invité dimanche dernier dans son émission Will & Co, qui est très bien aussi. À propos de la Tunisie, voilà, je voulais juste le remercier parce que c'est quand même rare qu'on m'invite dans des émissions, donc voilà, je tenais à le préciser. Voilà, vous êtes prêts?
Quand
tu veux.
Ok, c'est parti.
Mes chers compatriotes,
en 2000, il y a 20% de la population des pays riches qui consomment 80% des ressources naturelles. Alors, ce ne serait pas grave si la planète était une planète avec des ressources infinies.
Hello, America. I'm Julian Assange. Time to leave.
Yes, we can. Thank you, is Qatar.
Je suis aware. Je me suis réveillé. Quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce...
Politique, qu'attendre d'ici avril 2012, c'est le sujet de l'émission. Réagissez déjà au 09 72 11 0020 si vous écoutez en différé. Vous pouvez aussi réagir par mail, lesmeb@podradio.fr ou dans les commentaires de l'émission. Vous pouvez aussi réagir sur le chat et sur Skype si vous êtes en live. Donc on va donc, comme promis, attaquer l'émission par les réformes de Nicolas Sarkozy prévues pour l'année qui arrive. Alors on sait que la cote de popularité du président est plutôt basse, hein, et qui compte bien la remonter en 2011 en réformant. Et une des premières réformes de 2011 sera celle de la fiscalité, de l'économie, enfin bref, de l'argent public. Alors, pourquoi faire ce genre de réforme? Eh bien, premièrement, parce que la pression de la dette française devient de plus en plus forte. On en a récemment parlé avec l'exemple de la Grèce, de l'Irlande, de l'Espagne, du Portugal, etc. Et que le risque d'avoir aussi une crise de la dette nous pend au nez. Et donc, en fait, il faut que l'État ait plus d'argent, forcément, et pour le faire... Le gouvernement a annoncé un plan de rigueur, et qui dit plan de rigueur dit forcément suppression de postes. Et c'est ce qu'a annoncé Barouin en début de semaine. Donc préparez-vous à avoir 100 000 fonctionnaires de moins d'ici 2013. Alors bref, c'est la rigueur, et d'autres mesures d'économie de budget seront annoncées dans le cours de l'année. Alors on va parler de la fiscalité dans 2 petites secondes, mais d'abord, est-ce qu'on est en bonne voie pour rembourser la dette, qui est quand même estimée à plus de 1 000 milliards et quelques d'euros, et est-ce qu'on applique la bonne méthode pour la rembourser?
Alors, sauf si Adrien vous voulez parler, moi j'ai l'impression. Merci. J'ai l'impression que c'est intéressant comme question, mais c'est pas la bonne question. Pour moi, la bonne question, c'est pas est-ce qu'on est en bonne voie pour rembourser la dette, c'est est-ce qu'on a envie de rembourser la dette. Est-ce qu'on trouve ça utile? En fait, on pourrait notamment prendre l'exemple de l'Islande. Vous savez qu'ils ont été très durement touchés par la crise, comme on dit. Leur système s'est effondré. Ils se sont tous retrouvés au chômage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré tout leur politique. Ils ont dit, on ne rembourse pas les banquiers. Ils ont fait de la merde, tant pis pour eux. Et c'est pas notre problème. Et on va reconstruire le pays par nous-mêmes. Parce qu'au final, les banquiers nous disent qu'il n'y a plus d'argent. Mais les structures de production, donc c'est-à-dire produire ce qui te permettra de vivre, et la création de richesses, elles sont toujours là dans le pays. On va prendre les structures de production par nous-mêmes et produire pour nous-mêmes plutôt que produire pour rembourser des banquiers qui nous ont ruinés.
Alors...
Oui, oui. Oui.
Non, je valide.
En même temps, c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même penser à rembourser ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus rester éternellement avec une dette de 1000 milliards d'euros.
Mais tu n'as qu'à l'effacer d'un coup de baguette magique. Je veux dire, honnêtement, si l'ensemble des pays, demain, on va faire de la politique fiction, c'est pas toujours hyper cool, mais c'est intéressant pour comprendre le raisonnement dans lequel t'es. Parce que t'es dans un raisonnement qui est que, c'est ce qu'on nous rabâche tous les jours. C'est, il n'y a plus d'argent, déjà il faudra en reparler, est-ce qu'il y a vraiment plus d'argent, ok? Et deuxièmement, il faut rembourser. Mais posons-nous la question, là on nous dit, il y a des... je vois sur la chatroom, 1600 milliards remboursés. Mais je sais pas, à qui je les dois, et pourquoi je les lui devrais réellement. Et c'est pareil dans toute action politique, c'est une question de rapport de force. Qui est le plus fort? Est-ce que le plus fort, ça va être les quelques personnes qui vont s'enrichir de ce remboursement? Ou est-ce que le plus fort, ça va être les millions de personnes qui vont devoir travailler pour rembourser? Voilà, à mon avis, c'est la question.
Ouais, bon, d'accord, ok. je vais pas non plus partir parce que Xavier dit, je voudrais dépassionner le débat, et c'est vrai que on est un peu en train de partir dans une pente glissante en disant que, en gros, les élites ont ruiné le pays et que...
Oh, j'ai pas dit les élites ont ruiné le pays. J'ai dit, on se fiche de qui a fait quoi. On est dans une situation où certaines personnes sont ruinées, et je pense que tout le monde s'accorde à le dire, parce que elles ont fait des bêtises. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire les banquiers ont fait des bêtises et ça les a ruinés. Donc la question, c'est les banquiers ont fait des bêtises, ça les a ruinés, et nous on va rembourser? C'est un petit peu bizarre quand même comme explication. C'est-à-dire que moi, si je fais des bêtises et que je me ruine, l'État va pas me rembourser. Hein. Et ça, c'est un truc qui est vachement
important.
Attends,
là tu mets en parallèle la crise de 2008 et la dette publique. C'est pas exactement la même chose.
Mais si, pourquoi c'est la même chose? Parce que la crise, elle a aggravé le processus, et au-delà de ça, le déficit public, là c'est une autre question, c'est le déficit public, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est créé pour justement un but politique, hein, très simple. Si tu fabriques du déficit, et on pourra discuter plus tard de comment on fabrique du déficit, hein, mais si tu fabriques du déficit, tu peux faire deux choses. Tu peux dire, il faut absolument le rembourser, et pour le rembourser, il faut diminuer les prestations sociales parce que ça coûte trop cher et augmenter les impôts. Mais diminuer les prestations sociales, le but de ça, c'est justement... Bon, on dévie à mort. Hein.
Mais je pense qu'en fait, ce qu'il faut voir sur la question de la dette, c'est pas simplement est-ce qu'il faut la rembourser ou pas. Parce que de toute façon, tous les gouvernements diront il faut absolument rembourser la dette. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays, quand même, sans parler de la France, mais qui disent aujourd'hui, on ne peut pas rembourser la dette. Je pense aux pays du tiers-monde notamment. Voilà, y a des pays, ils sont dans l'incapacité de rembourser tout ça. Et. Voilà, y a une vraie question qui est de est-ce qu'on l'annule ou pas. Moi, je pense personnellement qu'il faut l'annuler. Mais si on prend l'exemple de la France, aujourd'hui, la dette, d'où elle vient de notamment de toutes les déductions d'impôts qui sont faites sur les entreprises, sur les plus riches, toutes les exonérations de charges sociales pour les patrons, etc., etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre. aussi par cet aspect-là, c'est-à-dire d'où elle vient la dette et pas simplement de aujourd'hui il y a trop d'argent à rembourser, du coup on est obligé de supprimer des fonctionnaires.
Mmh. Oui, mais en même temps, le truc c'est que si on s'est embourbé dans la dette, enfin j'ai l'impression, c'est aussi parce que par exemple on a fait en gros l'État a vécu au-dessus de ses moyens.
Pas forcément. Parce que c'est ce que disait Adrien il y a quelques secondes, si je ne me trompe pas. Il disait, on a fait des cadeaux fiscaux. On a fait des cadeaux fiscaux à certaines catégories
alors ça,
de population.
Alors ça, on est d'accord.
C'est un chiffre assez intéressant. Est-ce que tu sais quel est le déficit de la sécurité sociale, par exemple ?
Il doit être de 12 milliards d'euros par an. C'est pas énorme.
Il me semble qu'on est... Oui... Je crois qu'on était à 14, mais bon, ça change pas grandement l'ordre d'idée. Est-ce que tu sais quel a été, sur les 10 dernières années, les suppressions de charges patronales ?
Et là, tu comptes pas les patrons qui ont recours à de la magouille pour éviter
non,
les
non, impôts ? Non, je compte juste
les
la
exonérations
loi.
Très officielles.
Les exonérations officielles.
Je sais
par
pas.
Par rapport à ce qu'était la loi.
Je
les
ne
cas
sais
particuliers.
Pas.
35 milliards d'euros.
Bam. Oui, oui.
Voilà.
Non, mais
objectivement, est-ce qu'on avait besoin, dans une époque où on nous dit il faut se saigner pour rembourser la dette, de donner 35 milliards d'euros au patron, là, pour le coup, parce que c'est une exonération de charges patronales. Et à ça, t'ajoutes les... Il me semble bien... Là, j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est 70 milliards de niches fiscales. Ce qui nous fait... 105 milliards.
Oui, alors attends, il y a autre chose. Attends, il y a autre chose qu'il faut que tu prennes en compte quand même. Alors là, je vais faire un peu l'avocat du diable, hein, parce qu'il faut quand même un peu de débat dans cette émission. attends, faut pas déconner.
Ah oui, avec plaisir.
L'idée, c'est quand même que les niches fiscales permettent. Alors, c'est vrai que on peut appeler ça un cadeau aux riches, mais de l'autre côté, par exemple, je sais pas, les niches fiscales sur les panneaux solaires ou les niches fiscales dans les énergies propres, ça permet quand même de développer des entreprises.
Ah bah alors, les niches fiscales sur les panneaux solaires, tu devrais en parler à un très bon podcasteur dont je recommande le podcast, qui est Lionel du... aide-moi Adrien, c'est Lionel IT Show, c'est
Techno
ça
IT.
Lionel Monde.
Techno IT. Pardon, je confonds entre Lionel Hype Show et Techno IT. Bon, pardon. Mais qui est très en pointe sur tout ce qui est justement les énergies propres. Et en relation avec un site très intéressant d'informaticien du CNRS qui essaye de comprendre l'informatique green. Et les panneaux solaires, c'est ce qu'il appelle une fausse bonne idée. Parce que, pour le moment, si je ne me trompe pas et si mes informations sont encore correctes, parce que mes informations datent d'il y a 5 ans, un panneau solaire coûte plus d'énergie à produire que l'ensemble de l'énergie qu'il fournira tout au long de son cycle de vie.
Non mais on est d'accord, mais là on
Donc,
parle d'un cas particulier.
C'est un truc qui est polluant.
Non mais je parle de la règle générale, c'est-à-dire on peut dire quand même que les niches fiscales permettent de créer de l'emploi par exemple.
Ouais, mais à quel prix?
Voilà, la question c'est quelle niche fiscale supprimer, dans quelle mesure, sous quelles conditions, etc. On est d'accord.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des niches fiscales qui sont justes, je pense notamment à celles qui permettent de financer les associations, qui donnent droit à... en gros, quand tu fais des dons aux associations... Ça te donne droit à des réductions d'impôts, en gros, quoi. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bien parce que c'est
un des seuls moyens
qu'on les associe pour se financer.
Et il y a d'autres choses, par exemple le service à la personne, par exemple, avec les réductions faites sur les services à la personne, ça permet de indirectement d'avoir plus d'argent pour l'État parce que justement le taux de travail au black baisse. Et ça, je l'ai vu. J'ai étudié un cas, j'ai étudié des chiffres, et je sais que le travail au black avait réduit, enfin selon les chiffres de l'INSEE, donc forcément c'est pas des chiffres très précis, mais en tout cas je suis pas sûr des chiffres exacts, mais je suis quasiment sûr d'avoir vu une étude montrant que le travail au black avait baissé 10% après l'instauration justement de la loi Borloo sur les services à la personne.
Après, c'est toujours la même question, c'est... Si jamais on se place, parce que oublions, je pense qu'on a bien traité la question de est-ce qu'on pense qu'il faut rembourser la dette ou est-ce qu'on pense qu'il ne faut pas, et aux auditeurs de se faire leur opinion. Maintenant, si on se place dans l'opinion de s'il faut réduire, rembourser la dette, la question c'est en combien de temps et comment. Et est-ce que tu penses que, en gros, faire un pays qui tourne au ralenti pour que, en gros, il y ait une grosse part de son PIB qui soit prélevée pour rembourser la dette, ça va être plus efficace pour rembourser cette dette que de rembourser beaucoup plus petit et sur plus longtemps en disant que l'argent, au lieu de le mettre dans le remboursement de la dette, tu le mets dans le développement du pays et donc l'année suivante, le PIB sera plus grand, c'est le modèle capitaliste, hein, et donc le même pourcentage faible alloué au remboursement de la dette servira à rembourser plus de dettes l'année suivante et c'est un cycle vertueux.
Oui, alors
moi,
c'est possible.
Il semble qu'il faut mieux, et même pour les créanciers eux-mêmes, aider à améliorer le pays pour pouvoir rembourser que rembourser dans le but que le remboursement en lui-même va améliorer le pays. Où est-ce qu'on a vu que le remboursement d'une dette améliorerait le pays ?
Bah déjà ça enlève l'épée de Damoclès. On va passer à la question suivante peut-être parce que là ça commence carrément à devenir le gros étripage.
Et que on est quand même un peu dérivé sur la question suivante. C'est...
Voilà en plus. puisque on va parler de la réforme de la fiscalité justement, ni fiscale et tout. Ah ah, transition, magnifique. Parce qu'en fait c'est aussi une des réformes prévues par Sarkozy en 2011. Alors bon, la dette, ça malheureusement il a pas pu vraiment la prévoir. Mais la fiscalité, ça faisait partie du programme de notre grand président. Et l'idée défendue par le chef de l'État, j'essaye de trouver le maximum de périphrases pour Sarkozy.
Pas mal.
Ouais, bah attends, il y a Nicolas le Grand, alors Nicolas le Petit, Saint-Nicolas, le Nain, le mari de Carlita, c'est pas mal là, si vous pouvez m'en trouver d'autres, ce sera...
Non mais on va arrêter, parce qu'après on va tomber dans l'insulte et...
on voit les gauchistes. Donc l'idée est défendue par le chef de l'État et d'harmoniser la fiscalité française en fait sur l'allemande. Alors c'est vrai qu'on prend souvent exemple sur le modèle allemand, sur Angela Merkel, sur le dynamisme de l'économie outre-Rhin. Et justement, on essaie de tout harmoniser sur l'Allemagne et en particulier la fiscalité. Alors bon, l'autre but, à part de copier les Allemands, c'est de réduire la dette aussi, comme on vient d'en parler, en faisant en sorte que les rentrées soient plus importantes. Parce que là on avait parlé un peu des dépenses qui étaient moins importantes avec les suppressions de postes de fonctionnaires, on va parler des recettes. Et enfin, l'idée est de remonter la cote de popularité de Sarkozy, accessoirement, en étalant la pression fiscale plus équitablement, c'est-à-dire moins sur les pauvres, plus sur les riches. Alors, c'est pour ça que par exemple le bouclier fiscal, qui était une mesure importante du programme de Nicolas Sarkozy en 2007, mais qui est impopulaire, mais qui avait quand même été défendu par Sarkozy et tout son entourage depuis 2007, de façon très forte, hein, bec et ongle, donc ce bouclier fiscal a enfin été supprimé par le ministre du budget François Baroin et la ministre de l'économie Christine Lagarde. Mais de l'autre côté, l'impôt sur la fortune, qui rapportait plus que le bouclier fiscal ne coûtait, donc l'ISF rapportait 3 milliards si je ne me trompe pas, et le bouclier fiscal coûtait 50 millions, a lui aussi été supprimé. Et les niches fiscales qui coûtent un fric fou ne sont pas supprimées non plus. Alors on vient d'en parler des niches fiscales, mais bon après il y a des avantages aussi aux niches fiscales. Mais bon, même si y a quand même des... Si pour l'instant l'impôt sur la fortune a été supprimé, on est quand même en droit d'espérer que les impôts vont être mieux répartis.
Bah ouais, clairement, mais j'ai peur qu'on n'aille pas vraiment dans cette direction-là pour l'instant, quoi.
C'est-à-dire ?
Ne serait-ce que si on voit les dernières mesures qui ont été prises en termes de fiscalité par le gouvernement, bon, par ailleurs, celui-là ou ceux d'avant, c'était à peu près le même genre, mais ça va plutôt dans le sens de... c'est ce qu'on disait, hein, mais d'ouvrir les exonérations d'impôts pour les plus riches au lieu de faire que, par exemple, les plus pauvres puissent en payer moins, quoi. Je pense qu'on pourrait avoir un débat sur la TVA. On avait eu en partie dans Polygeek une ou deux fois avec Edouard. Mais la TVA, pour moi, et je pense pour Edouard aussi, c'est un impôt qui est profondément injuste parce que peu importe si tu gagnes 10 000 euros par mois ou si tu gagnes le RSA, tu payes autant sur les produits que tu achètes qui sont pourtant des produits souvent de première nécessité quand tu gagnes le RSA. Et il n'y a pas de raison que ça fonctionne comme ça, quoi. Enfin, a priori. Moi, pour moi, alors, en tout cas, il n'y a pas de raison que ça fonctionne comme ça.
Alors, avec Xavier, je ne sais pas si vous entendez le clavier dans le Skype.
Non, ça va.
On est, J'étais en train de dire à propos, parce que ce que disait Xavier, c'était que au 15e siècle en Chine, tout allait bien, que les gens avaient à bouffer, et donc moi je disais il faut réduire la population, et en citant Malthus, un pasteur protestant qui disait que pour que le monde aille mieux, il fallait réduire la population. Et donc là, on était en train de se taper sur le chat. Alors je ne suis pas malthusien, je précise, hein, c'était juste comme ça. Et donc, alors bon, ensuite là, j'étais parti dans un délire en disant qu'il fallait favoriser l'IVG, rétablir la peine de mort, etc., pour avoir encore moins de personnes et qu'on ait plus à manger.
Oui, et puis, c'est le problème du malthusianisme. Il y a notamment un certain nombre de personnes qui théorisent ça aux États-Unis. C'est que aujourd'hui, ça amène aussi à des dérives racistes du style il faut que nous, les blancs aux États-Unis, on fasse notre sauce chez nous, et puis les autres, ils se démerdent derrière, et du moment qu'ils restent chez eux, quoi.
Bah alors, à mon avis, je pense que le truc de l'anthrax, là, le virus qui était inoculé dans les enveloppes, c'est à tous les coups des malthusiens.
Hein. C'est possible.
Alors, autre réforme de Nicolas Sarkozy pour 2011, mis à part la réforme de la fiscalité dont on a un peu parlé dans cette émission. Sarkozy veut faire rentrer les jurés populaires en cour d'assises, donc il veut faire en sorte que des gens comme vous et moi, bon, plus vous que moi, rentrent donc en cour d'assises pour juger des crimes plus importants que maintenant. Est-ce que ça sert à quelque chose?
Objectivement, je laisse répondre.
Merci, super. Passe-moi la patate chaude. Non, moi, je suis désolé, j'ai pas trop envie de répondre à ça parce que objectivement, j'y ai pas réfléchi. Je connais pas vraiment le domaine, donc c'est pas vraiment la peine. Par contre, il me semble, et je vois ta timeline sur les réformes de Sarkozy, je veux pas te pourrir ton émission, mais les réformes de Sarkozy pour 2011, en fait, quelle est la grosse réforme de Sarkozy pour 2011?
Son annonce pour la présidentielle?
Non, ça c'est pas une réforme, et c'est pas vraiment une surprise non plus. La grosse réforme qu'il a annoncée, hein, et d'ailleurs... Il l'a annoncé il y a 3 mois, mais c'était annoncé au congrès du MEDEF de 2009, c'est la dépendance. Parce qu'en fait, il y a eu, vous n'êtes pas sans le savoir, une grosse bataille qui s'est menée pour casser les régimes des retraites, et ils ont gagné malheureusement, et on ne va pas revenir sur pourquoi et comment, mais ils ont gagné, et ils ont cassé les régimes des retraites il y a quelques mois. Et du coup, ils ont le champ libre pour faire la suite, qui est la sécurité sociale. Et c'est ce qu'ils vont faire, et c'est ce qu'ils programment de faire avec la réforme de la dépendance, où on dit
donc
c'est
toi,
pour
tu
mieux nourrir
la
les plus vieux.
Donc tu penses que
la réforme
de la
dépendance, c'est...
Non, attends. Tu penses que la réforme de la dépendance, c'est juste un truc pour masquer le fait de devoir travailler plus?
Non. C'est péter la sécurité sociale. Après avoir pété les retraites, on pète la sécurité sociale. Parce que, historiquement, c'était la même chose, si tu veux. C'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, création des caisses de solidarité pour les travailleurs qui soit ont travaillé toute leur vie et à un moment ont bien droit à une retraite, soit les travailleurs qui ne peuvent pas travailler à un moment parce que ils sont trop malades ou quoi que ce soit. Et donc la sécurité sociale, c'était ça. Et maintenant, après avoir pété les retraites, on s'attaque à ça. Et moi, ça me fait peur parce que, vu l'angle d'attaque des problèmes sociaux de Sarkozy en général, je ne suis pas sûr que les petits vieux vont le remercier une fois qu'il aura fait sa réforme.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, si tu veux, rien n'est complètement annoncé pour le moment. C'est toujours pareil, on nous dit il va y avoir des négociations, ça va être long, et puis on verra. Mais objectivement, ils ont un créneau. Et il va falloir qu'ils aillent très vite pour annoncer leur truc. Pour le moment, on parle un peu dans le vide. Effectivement, c'est des affrontements idéologiques. Et en gros, tout ce qu'il a dit, un mot couvert, c'est « je vais m'attaquer à la sécurité sociale ». Et moi, je peux rien dire de plus que si Sarkozy s'attaque à la sécurité sociale, j'ai peur. Maintenant, rien d'autre n'est annoncé. Mais il y a un timing hyper serré. C'est-à-dire que s'il veut réformer en profondeur la sécurité sociale, il a jusqu'à octobre pour le faire. Après, c'est mort. Après, c'est la campagne.
Donc, il a... Oui, enfin, surtout qu'il y a aussi le Sénat aussi. Hein.
Oui.
On en parlera un tout petit peu après. On parle de la présidentielle de 2012 en deux petites secondes après, donc justement avoir parlé de la dépendance. Je sais pas si. Parce que Antoine a parlé pendant quasiment tout le podcast, Adrien n'a pas placé un seul mot.
Pas tout à fait quand même, mais sur, enfin, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit sur le, l'histoire de la dépendance. Je pense que c'est une des réformes majeures qui prévoit, et d'ailleurs, les reportages se multiplient en ce moment sur TF1 et consorts pour préparer le terrain sur tout ça, voilà, nous dire en gros comment on va financer la sécurité sociale, comment on va soigner nos vieux, etc., etc. Et je pense que clairement ça c'est pour préparer le terrain, quoi. Donc c'est pas dit clairement que ça va être ça, mais moi je le sens quand même venir, quoi, en tout cas.
Alors, on va parler donc de la présidentielle de 2012 dans deux secondes. Juste avant, on va parler d'une réforme, d'une dernière des entre guillemets grandes réformes que Sarkozy veut faire passer cette année. Bon, c'était pas prévu au programme au départ, mais c'est Hadopi 3 qui avait été promise.
Hadopi.
c'est parti, donc c'est reparti pour une heure. Et donc en fait elle a été promise au... Alors cette loi avait été promise au déjeuner des blogueurs. C'était un déjeuner organisé avec Maître Eolas, Xavier Niel, Presse Citron, le président de Rentabili Web, il y en avait le président de VentePrivé.com et un autre blogueur que je me souviens plus comment il s'appelle. Et donc en fait cette loi devrait permettre un assouplissement de l'offre légale. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce que c'est vraiment encore nécessaire ou décidément Hadopi ça sert à rien? Et surtout, est-ce que ça va faire changer quelque chose?
Bah, en fait, tout dépend dans quel contexte tu te places, quoi. Si t'es à la place du gouvernement, tu te dis, bon, Hadopi ça marche pas très très bien pour l'instant, il faudrait peut-être essayer de faire quelque chose pour que ça marche, quoi. Par contre, quand tu te places de notre côté à nous, tu dis ça sert à rien, ils vont encore en rajouter une couche et ça va rien changer, quoi.
Ah, oui, ça, mais
pardon.
Oui, Antoine.
Moi, je trouve que ça sert déjà à nous faire rire, Hadopi. ça nous a tenus en haleine pendant longtemps. Maintenant, effectivement, c'est comme disait Adrien, ça dépend de quel côté tu te places. En même temps, et bizarrement, je vais peut-être être optimiste. Si on se place du côté du gouvernement, ok, ça marche pas, tout le monde reconnaît que ça marche pas, mais c'est excessivement impopulaire. C'est excessivement impopulaire et c'est excessivement impopulaire sur Internet. Et je veux pas spoiler le débat sur la présidentielle, mais je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour se dire qu'Internet va jouer un rôle majeur dans la prochaine présidentielle. Et on peut se dire que pour parler à leurs clients, en gros, si on remplace client par électeur par client, ils ont tout intérêt à supprimer ou adoucir Hadopi pour que ça passe bien et que ce soit tranquille. Parce que même ce qui représentait la base de l'électorat de Sarkozy en 2007, les Cédric Ingrand et autres, la base sur Internet, hein, même eux reconnaissent qu'il y a une erreur, même Jeff Clavier et compagnie reconnaissent qu'il y a une erreur et que Hadopi ça marche pas, et que même idéologiquement c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et donc ils ont tout intérêt, s'ils veulent que ces gens là les ressoutiennent à 100% en 2012, à faire machine arrière, même si c'est pour faire machine arrière 3 mois avant la présidentielle et revenir avec une Hadopi 3 plus forte que jamais
Oui mais attends, le truc c'est que pourquoi, enfin moi la question que je me posais la question hier, moi si on me disait bon allez tiens tu deviens président de je sais pas, de Yamaha ou de Universal ou n'importe quoi, moi la première chose que je ferais ce serait d'arrêter la lutte contre le piratage, mais simplement d'un point de vue économique, c'est-à-dire que ça ne sert strictement à rien, c'est-à-dire les mecs, les majors s'enfoncent à corps perdu en investissant un fric fou en ce qui concerne la pédagogie, la répression, les procès en tout genre, et ça n'a strictement rien apporté.
Non, je pense que ce qui est le plus important, c'est de développer l'offre légale pour eux s'ils veulent
réussir. Voilà, on est d'accord.
Sortir.
Mais justement, à Hadopi 3 va servir à ça.
Plus il y aura des révolutions, enfin, n'importe quoi, plus il y aura des solutions simples pour les trucs légaux, mieux ça marchera. Enfin, personnellement, la musique, moi je trouve que ça commence à être plutôt bien. Enfin, il commence à y avoir en tout cas des trucs plutôt intéressants, notamment du côté de Spotify et tout ça. Par contre, au niveau des films, clairement, c'est pas encore du tout ça, quoi. Et s'ils veulent aussi s'en sortir, ça doit jouer à ce niveau-là, quoi.
Ok.
Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais.
Non, c'était intéressant. Mais alors, ce que disait Alléluia Pichu, il disait Internet mise en avant du gouvernement qui a clairement pour but de nous censurer et de nous contrôler.
Mais ce qui est clair, c'est qu'avec Adopi, aujourd'hui, le gouvernement, il teste aussi des technologies qui permettront plus tard d'avoir plus de contrôle sur le net. Donc on dit souvent qu'ils sont en train de tester la technologie DPI, la Deep Packet Inspection, qui permet d'aller vraiment voir tout ce qui transite partout sur Internet. Si vraiment ils le font et qu'ils jugent ça efficace, clairement Adopi 3 sera doté de cette technologie-là, quoi.
Mais là encore, est-ce que c'est utile de faire ce genre de choses
Bah non. Mais va le dire à Sarkozy, quoi.
Bah c'est ce que les blogueurs lui ont en substance dit quand même, hein. Enfin, j'espère.
Peut-être.
Enfin, en tout cas, Maître Ola, je pense qu'il ne s'est pas privé. On va parler donc de ce qui va nous occuper pendant le reste de l'émission, c'est-à-dire...
2012.
La présidentielle.
Élysée 2012.
Ah bah oui, attends, je le ressors, je me suis cassé le cul pendant une heure à le faire. donc on va... oui ?
Non, vas-y.
Non, c'est bon. Donc on va parler de 2012 maintenant. Juste avant de commencer, est-ce que vous êtes... excité, alors je vais remplacer le terme en anglais, donc c'est excited, mais bon, le truc c'est que si je vous dis excité, vous allez penser à, forcément avec vos petits esprits pervers d'auditeurs de l'apéro du Capitaine. Vous allez penser à autre chose.
On se fait insulter en venant dans ce podcast, c'est n'importe quoi.
Qu'est-ce qui se passe encore?
Non, bah, est-ce qu'on est excité? Je sais pas, mais disons que les élections présidentielles, c'est toujours quelque chose d'un petit peu... c'est vrai que j'arrive pas à trouver un terme qui corresponde, mais qui soit... c'est toujours un moment intéressant, quoi, où tu vois vraiment ce qui se passe dans le pays, où t'as les rapports de force qui changent, ou tout ça. Alors après, t'as tout le jeu médiatique aussi qui fait que finalement, c'est pas forcément la personne la plus qualifiée qui se retrouve la plus qualifiée, ou celle qui a les meilleures idées, on va dire, qui se retrouve au pouvoir, mais c'est effervescent, on nous dit dans la chatroom, ouais, je trouve ça pas mal.
Oui.
Je suis assez d'accord sur le thème, un peu excité, peut-être c'est un petit peu fort, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui se passe, mais je peux pas renier malgré mes quelques petits relents gauchistes de temps en temps. Je me souviens très bien de 2007 où vraiment, en tout cas, j'habitais dans un bureau de vote à ce moment-là. Ne me demandez pas pourquoi, mais
tu habitais dans un bureau de vote, tu couchais avec la mère.
Non, c'est une longue histoire. Mais, on a senti qu'il se passait quelque chose de totalement différent ce jour-là, de totalement différent des autres jours et de totalement différent des autres jours d'élection. On sentait le pays entier concerné et on sentait que le pays entier retenait pas son souffle parce que c'était plié d'avance, mais on sentait le désespoir chez certains et on sentait le... Bon, je vais rien dire. Et vraiment.
On sentait quoi? Que Ségolène Royal allait perdre, c'est ça?
Oui, non, mais ça, on le savait, parce que. Et c'est vrai.
Ah, c'est pas on le sentait, ça, c'est on le savait.
Oui, bah, on le savait, je sais pas. Je crois que moi, comme beaucoup, on est allé voter alors qu'on avait déjà les résultats qui étaient tombés en Belgique, tu vois. Il s'est quand même passé quelque chose, et tu te dis que si toute cette énergie qui se concentre au moment de l'élection présidentielle, alors que, objectivement, bon, on y reviendra, mais t'as. Bon, t'avais pas des choix non plus, surtout au soir du deuxième tour, totalement opposés, quoi.
Mais si bah, c'est vrai que énergie... depuis 2002, on a beaucoup de chance, hein.
Ouais. Si toute cette énergie était utilisée à un autre moment pour quelque chose de plus essentiel que décider qui va être le grand chef, mais était utilisée pour décider tous ensemble de ce qu'on fait de notre avenir, pour décider tous ensemble de sauver les retraites, tu vois, ce genre de truc. Bah ce serait grisant là.
Ah bah je partage ton émotion là, ça donne envie, mais c'est vrai que en revanche moi ce qui m'a un peu choqué, non enfin pas tellement, mais je pense qu'en 2007 ça devait déjà être comme ça, c'est le fait que on commence à préparer la présidentielle déjà très très tôt.
Bah, en même temps, c'est quand tu vois l'importance qu'a pris aujourd'hui les présidentielles, bon, depuis le quinquennat, mais déjà avant, hein, dans la vie politique en France, c'est clair que, en fait, tu passes 2 ans à préparer les élections présidentielles et 3 ans à tirer les bilans des élections présidentielles d'avant. Donc, au final, voilà, les présidentielles, c'est tout le temps, quoi. De toute façon, le 7 mai 2007, ils commençaient déjà à placer leurs billes pour les prochaines. Donc,
c'est vrai qu'il n'y avait qu'un seul mot le 7 mai 2007, c'était 2012.
Ah bah oui, clairement. Ouais. C'était est-ce que Sarkozy fera un deuxième mandat ou pas, est-ce qu'il tiendra jusque-là ou pas, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un problème. Moi, j'ai pas beaucoup de respect pour la 5ème République, on va dire.
On va dire les choses franchement, tu lui fuis dessus, c'est ça.
Exactement, mais faut pas le dire parce qu'après je vais avoir une amende pour outrage à la République. Non, ça existe pas encore, bon, ça va venir. Où est-ce que je voulais aller en disant ça? Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui on donne carte blanche à un mec pour 5 ans et qu'après on a aucun contrôle sur lui pendant 5 ans, et ça, c'est aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est ça le problème aujourd'hui dans ce système, quoi.
Ouais, mais il va vraiment lui défoncer sa timeline, là, pour le coup.
Alors, Alléluia dit Révolution, 5ème République, sus ma bite. Non.
Je n'irai pas jusque-là, dans la grosse RT.
Alors, il y avait quand même Xavier qui avait dit République de merde en caca. Bon, c'est bien, là, je crois que le niveau du chat est très bon ce soir. Je vous propose qu'on va faire le tour des enjeux partie par partie, donc comme j'ai dit en début d'émission.
Allons-y.
On va parler d'abord des tout petits candidats, on va monter en grade, et ensuite on parlera du rôle du net. Donc on va parler d'abord des tout petits candidats, et ensuite on montrera en importance avant de terminer sur DSK, Sarkozy, etc. Ok ?
Allons-y,
on va parler de l'extrême gauche d'abord, avec le PCS, le PCF, et tout. Donc il paraît que vous connaissez bien ce domaine.
Oui, il paraît, ouais. Ça dépend, tu veux qu'on parle du PCF ou aussi de toutes les autres organisations d'extrême gauche?
Je vais faire un petit topo avant. Présentons les protagonistes. D'abord Mélenchon, donc comme le crie Xavier dans le chat, je sens qu'il est fan de Mélenchon. Donc Mélenchon, c'est un ancien militant PS. On peut le qualifier de populiste. Alors il paraît que j'ai entendu que Plantu avait fait un dessin en disant qu'il était aussi populiste que Marine Le Pen et que ça lui avait pas trop plu.
C'est assez limite comme comparaison quand même.
Bah, en fait, en gros, le dessin, c'était tu voyais Marine Le Pen avec un discours tous pourri, et de l'autre côté, t'avais Mélenchon, en fait, qui avait un autre discours tous pourri, et les deux discours étaient reliés.
D'accord. Enfin, on peut faire des blagues comme ça, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de différences entre Mélenchon et Marine Le Pen qui font que c'est pas tout à fait la même chose, quoi.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Ça avait déclenché une polémique, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, il a quand même écrit un livre qui s'appelle « Qui s'en aille tous », hein, quand même, donc ça monte le niveau. C'est un peu le discours tous pourris, quand même, hein, on va pas nier le contraire, c'est pas le même discours.
Oui, d'accord.
Donc, c'est un mec qui se la joue extrême, même s'il était au PS auparavant. De l'autre côté, il a fait le Front de Gauche, donc au départ, il a fait le Parti de Gauche, donc après avoir quitté le PS. Il a fait donc le Front de Gauche ensuite avec le PCF, les Verts, etc. Donc en fait c'était une sorte, non pas les Verts, enfin le PCF, tous les partis de droite, tous les partis de gauche, tous les partis d'extrême gauche avaient il les avait rassemblés sous une bannière, donc le Front de Gauche, pour les élections. Et merci de te racler la gorge en pleine émission.
Non, je signalais que on n'est pas d'accord là-dessus. En fait, il n'a pas fait le Front de Gauche, donc il a créé son parti, qui est le PDG, jeu de mots, machin. Donc le Parti de Gauche, où il a essayé de suivre la vague du Linke, c'est ça, en Allemagne? Je ne sais plus.
Linke, oui, qui est l'ancien, les relents de l'ancien Parti communiste.
Voilà, et il a juste allié son parti avec le PC, et le Front de Gauche, c'est uniquement ça, hein, c'est... Parti de gauche, PCF. Et c'est ça qui représente le Front de Gauche. Après, il existe
plein de petits partis derrière.
Plein d'autres partis qui, en fonction des élections, sont même plus forts que les deux dont on parle réunis. Notamment, alors je suis dans aucun de ces partis, donc je veux dire, je peux en parler et critiquer et applaudir sans souci, parce que je n'y suis pas. Mais il existe donc le NPA qui, à mon avis, a la capacité de faire tout de même un score qui est loin d'être ridicule, autour de 3-4%, parce que 3-4%, ça reste énormément de Français.
Bah, il avait eu à peu près ce score-là en 2007. Il n'était pas très loin de la barre des 5%, je me souviens.
C'était 4,5%, ce qui faisait à peu près 1,5 million de votants.
Ce qui est quand même énorme.
Donc eux, ils s'allieront jamais. Enfin, on va voir, ils ont un congrès bientôt, mais ils s'allieront jamais avec le Front de Gauche, pour tout un tas de raisons. Il existe aussi le POI, le Parti Ouvrier Indépendant, qui avait son candidat aussi en 2007, qui était Chivardi. Tout le monde s'est foutu de la gueule parce que
il y avait aussi le PT
mais le PT,
le Parti des Travailleurs,
c'est le même, ça a changé de nom entre temps.
Ah bah heureusement, ouais,
ils ont juste changé de porte-parole, ce qui est très dommage parce que leur ancien porte-parole était un mec extrêmement intelligent et qui disait des choses assez carrées, et c'est vrai que quand tu mets Chivardi derrière
bah déjà Chivardi il arrive bourré à la moitié des conférences de presse. Bon bref, on n'est pas là pour parler de Chivardi. Il se trouve quand même que le PCF aujourd'hui est assez mal en point. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est vrai que quand même, il est plus ou moins en désertion. Puis quand même, à un certain moment donné, il est sur la pente descendante. Et donc en fait, Mélenchon a voulu faire une sorte d'OPA. Alors bon, vous me reprendrez si vous voulez. Hein, mais a fait une sorte d'OPA sur le PCF, et justement, il a réussi puisque aujourd'hui, il est annoncé qu'il serait candidat en 2012, et que j'avais vu dans une newsletter du Monde récemment qu'il avait été désigné par le PCF comme leur candidat. Donc en fait, le PCF va présenter Mélenchon comme candidat, ce qui est quand même énorme, parce que tout le Front de Gauche, donc, que vous aviez décrit, qui avait fait des bons scores aux dernières élections régionales, etc., va présenter un candidat, sauf s'il fait une alliance avec le PS. Mais la question, c'est: est-ce que, premièrement, Mélenchon peut être dangereux pour le PS?
Alors, avant d'être dangereux, je soulignerais juste un truc. Et dans tout ce que tu disais, c'était hyper cool. C'est vraiment une situation historique pour le PCF. C'est que si, effectivement, il présente Mélenchon, il choisit de soutenir Mélenchon et pas de mettre un candidat communiste, ce sera la première fois de la 5ème République que le PCF ne présente pas de candidat à une élection présidentielle, il me semble, sauf peut-être 81, pour des raisons un petit peu différentes. Et c'est vraiment un truc de fou.
Antoine dit que tu... Adrien dit que tu monopolises la parole.
C'est pour ça que je me tais.
Non mais sur le PCF, bon, ils ont annoncé officiellement il y a deux semaines, ou une semaine, je sais plus, qu'ils soutiendraient la candidature de Mélenchon aux élections présidentielles. Bon, Mélenchon qui a annoncé sa candidature aujourd'hui, par ailleurs. Voilà, c'est en même temps, c'est étonnant parce que le PCF, ça a toujours fonctionné en se présentant tout seul et tout ça. Mais en même temps, le PCF aujourd'hui, ça vit tellement sous perfusion de leurs élus qui leur sont accordés gracieusement par le PS au moment de toutes les élections, par des jeux d'alliance et tout ça, que finalement, je pense qu'ils en sont réduits à être obligés de faire ça, quoi, parce qu'aujourd'hui, en plus, ils n'ont pas de porte-parole qui est suffisamment de présence médiatique, on va dire, pour...
Bah attends, Marie-Georges Buffet, c'est vachement bien quand même, hein.
Ouais, Marie-Georges Buffet, elle est plus secrétaire générale du Parti communiste. Donc voilà, aujourd'hui, c'est... je sais même plus comment il s'appelle.
Oui, c'est le mec Laurent, là, qui est...
Pierre Laurent, voilà, qui est très bien, hein, par ailleurs, mais qui...
Oui, je l'avais, je crois que j'avais...
Qui n'a pas la présence médiatique suffisante pour aujourd'hui s'imposer face à Mélenchon, et le Front de Gauche, il y a des jeux de pouvoir qui sont assez, assez délicats à l'intérieur, et clairement, Mélenchon, aujourd'hui, il l'emporte parce qu'il a la présence médiatique, et qu'il pense qu'en présentant Mélenchon, ils peuvent faire plus parler d'eux qu'en présentant quelqu'un du PCF, quoi.
Mais la question, c'est: est-ce que au final Mélenchon peut peser?
Oui, enfin je pense que oui, mais tout dépendra de comment il mènera sa campagne, enfin comment le Front de Gauche mènera la campagne de Mélenchon, parce que s'ils le font sur les thèmes de tous les politiques c'est de la merde, je pense que ça marchera pas forcément, et des gens, alors je suis un peu partisan dans l'affaire, mais je pense que des gens comme le NPA qui apportent plus de solutions politiques pourraient mieux s'en sortir dans cette affaire. Alors après, est-ce que ça va peser sur le score du PS? Oui mais non, quoi. C'est-à-dire que de toute façon Mélenchon n'ira pas au deuxième tour, personne dans la gauche du PS n'ira au deuxième tour.
Oui, mais le PS peut ne pas y aller, c'est le problème.
Bah, on verra, mais en même temps, s'ils y vont pas, c'est un peu leur problème, quoi. C'est qu'ils sont pas suffisamment crédibles pour réussir à imposer un candidat, quoi.
Le truc, c'est que tu as aujourd'hui dans les sondages, on en reparlera après, mais tu as Sarkozy qui est premier au premier tour.
Mm-hmm.
Et le PS qui est systématiquement deuxième. Ce qui veut dire que si tant est que Mademoiselle Le Pen fasse un bon score, bah.
Ouais, mais c'est un peu le débat.
Il y a des potentialités pour que le PS ne passe pas.
C'est un peu le débat qu'il y avait eu en 2002 après le 21 avril, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, en 2002, le PS, clairement, ils ont payé les 5 ans de gouvernement Jospin, quoi. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été suffisamment crédibles pour être maintenus au deuxième tour. Et là, aujourd'hui, honnêtement, si après 5 ans de Sarkozy, le PS il arrive pas à se maintenir au deuxième tour, franchement, c'est vraiment qu'ils le méritent pas, quoi, parce que ils ont un boulevard là aujourd'hui avec la politique qui est menée par Sarkozy, tous les mouvements sociaux qui appuient.
On va y revenir.
Ils ont un boulevard politique et donc, clairement, c'est leur responsabilité s'ils arrivent pas à passer au deuxième tour, quoi. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas.
Alors, on va parler, là, juste avant de parler de UFN, on va parler du troisième homme. Parce que vous savez, à chaque élection, il y a un troisième homme. Alors, en 95, c'était Jospin. En 2002, c'était Le Pen. En 2007, c'était Bayrou. Et justement, on se pose la question, qui sera le troisième homme en 2012? Alors, d'abord, il y a Bayrou. On va parler de Bayrou.
Peut-être sera-ce... peut-être, est-ce que... Enfin, j'arrive pas à formuler ma phrase en français, mais peut-être que ce sera une femme aussi.
Oui, voilà, on pense aussi la troisième... Alors bon, on va juste un peu parler un peu du centre droit, parce qu'il y a Bayrou, donc qui est l'ancien UDF, qui a fondé le MoDem, mais il y a les rebelles du MoDem qui sont allés au Nouveau Centre, qui est une annexe de l'UMP, donc qui est en pleine traversée du désert, qui a raté ses élections, mais qui aimerait quand même bien rester le troisième homme. Alors bon, je pense qu'on est un peu tous d'accord que c'est fini pour Bayrou en ce moment.
Bah, Bayrou, il est tout le temps fini, et en même temps il revient tout le temps, quoi. Donc c'est un petit peu énervant, mais je pense que c'est pareil, Bayrou il a un espace, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent pas dans la politique du PS, parce qu'ils ont pas une politique qui est suffisamment différenciée de celle de la droite, et donc Bayrou ça peut aussi sembler quelque chose d'un peu différent, quoi, mais... Bon, moi, je t'avoue que je suis pas un spécialiste du centre et que ça m'intéresse moyennement ce qui se passe par là-bas, mais...
Donc si maintenant je te dis Hervé Morin, candidat de la présidentielle, ouais. Ça te dit rien non plus.
Mais enfin, le problème, c'est que le centre aujourd'hui, c'est, si tu veux, c'est pas... pour moi, c'est pas quelque chose qui existe en vrai, quoi. C'est juste... comment dire, c'est quelque chose qui en vrai devrait être à droite, sauf que les analystes politiques ils classent ça plutôt au centre parce que ça les arrange de faire un truc entre l'UMP et le PS, mais au final
et c'est le fameux ni de droite ni de gauche auquel des gens ont cru, c'est dommage, hein, mais ça n'existe pas. Je suis désolé.
Juste le centre, il a été dans tous les gouvernements de droite depuis des années, donc qu'on ne nous dise pas non plus que c'est totalement différent, quoi.
Pourquoi tu disais que le qu'il y a un mythe ni de droite ni de gauche?
Parce que très clairement à un moment je vais pas analyser, je vais pas vous ressortir des trucs genre la lutte des classes et tout, non, mais simplement face à un problème il y a forcément quelqu'un qui va gagner, quelqu'un qui va perdre.
Oui, et alors pourquoi est-ce que Sarkozy a gagné avec les classes populaires?
Non, attends. Le truc, c'est que si tu prends tous les sujets qui sont prégnants dans la société, donc tu parlais du remboursement de la dette, tu parlais d'Adopi, on parlait, j'en parlais, des retraites, à chaque fois, il y a deux possibilités. Soit la réforme t'arrange, soit elle est bénéfique pour toi, soit elle ne l'est pas. Et objectivement, si tu penses que ça t'arrange la réforme de la retraite, des retraites quand on a des meilleures retraites, t'es de gauche. Si tu penses que ça t'arrange qu'on a des moins bonnes retraites, t'es de droite. Voilà, de base. Eh ben, il n'y a pas de centre. Tu peux pas être un peu pour les patrons et un peu pour les gens. C'est pas possible. On a essayé, hein, mais ça marche pas. Et la preuve, c'est que les centristes, historiquement, sont toujours avec les gouvernements de droite.
En France, tu veux dire?
En France et partout. En France et partout. Parce qu'après, il y a aussi la question de... Est-ce que ce qu'on appelle...
Après, il y a beaucoup de pays où, en fait, le centre, c'est considéré comme la gauche. Parce qu'il n'y a pas de gauche suffisamment crédible pour s'imposer, quoi. Je pense aux États-Unis, mais il y a aussi l'Italie, il y a plein d'autres pays où c'est un peu comme ça, quoi.
Oui, non, mais non, c'est vrai, c'est vrai que c'est fort possible. Est-ce que, alors, juste avant de passer au FN, Villepin, est-ce que vous pensez qu'il peut peser ou...
Peut-être, peut-être pas. J'ai envie de dire, ça dépendra des amis qu'il aura dans les médias, quoi.
Ok, on va passer maintenant au FN. Alors, au congrès de Tours le week-end dernier, le FN a élu son nouveau président, enfin, sa nouvelle présidente, qui est Marine Le Pen. Alors, elle hérite de tout l'héritage de papa, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait depuis... quand est-ce qu'il a fondé son parti, d'ailleurs? 48, 48
Non, c'est un peu plus tard que ça, c'est dans les années 60.
Ah oui, là où il avait encore le bandeau, on dirait un pirate. On dirait un peu Le Pen. Alors, qui dit Le Pen dit forcément discours à la Le Pen, sauf que le discours est un petit peu plus policé qu'auparavant, puisque c'est un autre style. Alors, visiblement, ça paraît plus modéré, puisque dans son discours, elle a parlé de république laïque, etc. Mais en fait, dans les sondages, et c'est ça qui est intéressant, elle fait plus que son père avait fait en 2002. Et si on compare avec les sondages de 2001, donc c'est-à-dire 15 mois avant la présidentielle, Le Pen était qu'à 7,5%. Là, elle fait quand même 10% de plus que son père. Alors, on peut craindre le scénario de 2002, ça, beaucoup de gens ont peur. D'autant plus que ce que fait Sarkozy, le discours sécuritaire de Sarkozy, profite au FN plus qu'à l'UMP. Mais est-ce que on peut craindre, après un 21 avril 2002, un 22 avril 2012
Antoine, tu veux répondre ou...
Vas-y, je te brime, alors parle.
Non, mais j'ai pas envie de te brimer à l'inverse. Hein.
Non.
Mais sur le Front National, déjà sur leur congrès le week-end dernier, il y a plusieurs choses. Sur le nouveau, leur nouvelle présidente, etc., et sur le fait que Marine Le Pen elle revienne aux valeurs républicaines, etc., je pense que c'est un leurre et qu'aujourd'hui la notion de laïcité qui est utilisée par l'extrême droite, il n'y a pas que au Front National, hein, je pense que l'apéro saucisson pinard là qu'il y avait eu au mois de juin là, qui avait fait pas mal de bruit sur internet, c'était aussi ce genre de relent. La laïcité aujourd'hui elle est utilisée par l'extrême droite en gros pour dire on veut pas des musulmans, quoi. Je pense que c'est typiquement dans l'héritage du Front National de dire tout ça, c'est un peu une fausse vitrine, quoi. Le truc républicain, c'est pour se donner bonne façade et être un peu plus respectable que l'était son père, quoi. Moi, c'est comme ça, oui, que je le vois, en tout cas.
Mais est-ce qu'elle peut faire mieux que son père en 2012?
Moi j'espère vraiment ne pas être un prédicateur de mauvais augure, hein, mais je pense malheureusement que c'est possible, parce que je ressens très fort, et ça me fait un peu vomir, hein, une énorme montée de l'extrême droite en France, donc du fascisme, hein, soyons clairs. Ça se sent dans les facs où on voit que les militants d'extrême droite qui avaient un peu disparu de certaines facs historiques du mouvement social se remettent à circuler à visage démasqué. Il y a un autre mot pour ça, je sais plus. Et puis, objectivement, en temps de crise, les gens ont tendance à se tourner vers la solution de facilité.
Ouais,
et la solution
choses.
De facilité, ça a toujours été d'accuser l'étranger. Et qui est ce qui offre cette solution de facilité, c'est le Front National et d'autres partis, les identitaires et compagnie. Et donc, la crise leur offre un boulevard.
Mais il y a deux limites un peu à ton raisonnement. C'est-à-dire que premièrement, il y a la piqûre de 2002. Alors la question, c'est est-ce que la piqûre de 2002 est toujours là ou est-ce qu'il faut faire une piqûre de rappel ?
Je suis pas sûr. Attends, la piqûre contre la peste brune. Je pense que en 39-45, on a eu une bonne piqûre, si tu veux. Normalement, on est censé être guéri à vie, hein. Enfin à vie de l'humanité. Et pourtant, ça marche pas parce que, enfin, je veux dire. Attends, truc de fou, anecdote personnelle, ok. Dans ma famille, j'ai une partie de ma famille qui a été déportée. Et parmi les survivants, il y a donc un petit groupe de survivants sans
Holocauste.
Sans famille, comment on dit là, les merde, putain, les enfants qui n'ont plus de parents, s'il vous plaît, aidez-moi.
Orphelin.
De la nation.
Orphelin, merci, enfant orphelin.
Ah.
Fait toute la guerre en étant orphelin, et qui, une de ces personnes, je vous rassure, j'avais pas trop de contact avec elle, et j'ai plus de contact avec elle depuis, a quand même voté Le Pen en 2002 parce qu'il y a trop d'étrangers en France. Donc, tu vois, on marche sur la tête.
Pas exactement la même chose. Zemmour, il hésiterait pas à voter Le Pen, et pourtant il est fudge. Hein.
Mais moi, enfin là-dessus, sur, je pense le problème surtout aujourd'hui, et même par rapport à 2002, je pense qu'il y a une régression, c'est que aujourd'hui le Front National, ça provoque pas la répulsion que ça provoquait il y a quelques années. C'est-à-dire que il y a 10 ans, il y a 15 ans, t'avais Le Pen qui venait dans un bled pour faire un meeting, t'avais 2000 personnes qui manifestaient systématiquement comme minimum. Aujourd'hui, il y a plus ça quoi. À Tours, il y a eu une petite campagne nationale pour faire une manif, bon moi personnellement j'y étais, il y avait 3000 personnes quoi, alors que c'était un truc national, ce qui est quand même...
Moi j'en ai pas entendu parler donc...
Ce qui est quand même relativement ridicule et même, enfin voilà, c'était essentiellement des gens qui étaient pas de Tours et tout ça, et aujourd'hui, moi je vois vraiment ça comme un problème, c'est-à-dire que l'extrême droite dans son ensemble ça ne répulse plus, je pense que Marine Le Pen elle pourra jouer son rôle dans les prochaines élections présidentielles, d'autant plus que son discours il est légitimé par le gouvernement aujourd'hui, quand tu vois que les ministres reprennent des déclarations du Front National tous les 3 jours, t'as un nouveau truc qui sort, ça choque plus personne, franchement bah, ça me fait flipper à ce niveau là quoi.
Oui, mais de l'autre côté, en même temps, elle fait mieux que son père, mais dans les sondages, elle ne passe toujours pas au second tour. Et elle est bien distancée, pour l'instant.
Oui,
elle
mais
fait 17%, mais elle est quand même à 6 points de DSK, qui est le deuxième.
Oui, mais d'une part, on n'est pas encore dans la campagne des élections présidentielles. D'autre part, Sarkozy prépare bien le terrain aussi pour que, histoire d'être sûr de gagner, l'extrême droite soit forte au moment des élections présidentielles. C'est la même chose qu'on avait dit en 2002, mais le truc sécuritaire, clairement, ça fait le jeu de l'extrême droite. C'est possible que, enfin voilà, aussi il y a le fait que le Front National il est toujours sous-estimé dans les sondages, hein, systématiquement t'as un chiffre dans les sondages et c'est toujours plus au moment des élections, parce que les gens ils ont toujours honte de dire qu'ils vont voter FN. Bon, tout ça c'est des éléments qui sont quand même assez inquiétants, et par ailleurs il y a aussi la possibilité qu'il y ait un autre candidat de l'extrême droite au moment des présidentielles. Je pense au Bloc Identitaire qui mène toute une campagne en ce moment pour dire on présente un candidat, tout ça. J'ose espérer qu'ils n'auront pas les 500 parrainages, mais on n'est jamais sûr de rien. Il y aura peut-être De Villiers, il y aura peut-être...
Il n'y aura pas De Villiers.
De Villiers, il est quasiment mort, là.
Il est dans l'UMP, maintenant.
Il y a encore
mais...
un œil qui bouge encore, mais...
Oh, ça c'est du monde noir, ça.
Il y a aussi un certain nombre de gens qui sont issus de l'UMP, qui sont toujours ce qu'on appelle le collectif de la droite populaire, là, qui se rapproche beaucoup de l'extrême droite, et c'est possible qu'ils veuillent aussi essayer de sortir un peu leur épingle du jeu au moment des présidentielles. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles, et moi je suis quand même relativement pessimiste aujourd'hui sur... l'impact de l'extrême droite et sur son avenir, quoi, on va dire. Même si je suis prêt à me battre et tout ça, hein,
honnêtement, est-ce que vous, enfin, est-ce que si il y a pendant la campagne présidentielle, si on voit que Le Pen passe virtuellement au second tour, tout le monde va se mobiliser pour essayer que ça ne se fasse pas, par exemple les médias, par exemple. Il ne faut pas penser que tous les médias sont à la botte du gouvernement. Je dirais plutôt même le contraire. J'avais vu un proverbe, une phrase qui disait la plupart des journaux ont une direction, des actionnaires de droite et des journalistes de gauche. Donc
Sarkozy, son meilleur ami, c'est Bolloré, quoi, tu vois. Et Bolloré, c'est direct matin, direct soir, pour ne citer qu'eux, qui sont quand même parmi les journaux les plus lus aujourd'hui en France, quoi.
Oui, mais alors comme disait Pop Code, le contre-coup, c'est la banalisation, puis la tentation de l'original, donc Front National, plutôt que de la copie UMP. Salut à The Bully qui est revenu dans le chat.
Oui, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, à part oui, ça fait hyper peur.
Mais ça pourrait être désavantagé l'UMP.
Je pense qu'il faut se mobiliser contre le fascisme, pas seulement pendant les élections, mais que c'est toute l'année qu'il faut être présent et défendre nos valeurs.
Oui, mais de l'autre côté, si le FN prend de la voix, parce que pour l'instant, le schéma actuel, c'est Sarkozy 26, DSK 23, Le Pen 27. Si Le Pen prend des voix, ça va forcément être à l'UMP. Donc, dans un sens...
Ouais, mais en même temps, l'UMP, ils ont un réservoir de voix tellement important aujourd'hui que je pense que ça les inquiète
pas trop. Oui, mais l'UMP n'aura pas...
De toute façon, ils sont au second tour, l'UMP. Il n'y a pas de question là-dessus. La question, je veux dire, le tableau pour la présidentielle, c'est l'UMP au second tour. Maintenant, qui sera l'autre qui sera au second tour? On a trois possibilités. On a UMP face au FN, on a UMP face aux écologistes, et on a UMP face au PS. Voilà.
UMP face aux écolos, oui.
Objectivement, prends les scores écolo-PS des dernières élections.
Aux européennes, par exemple.
Aux européennes, il y a quoi? Il y a même pas un point d'écart. Hein. Et le truc, c'est que le PS, mais peut-être on reparlera du PS après, mais à ne pas faire une politique de gauche, il va se faire doubler par certains qui sont jugés plus crédibles actuellement, et surtout avec une politique de gauche, que sont les écologistes. Ce qui cartonne dans les centres urbains. Hein.
Oui.
À Paris, tu réorganises une élection municipale maintenant, je te garantis que les écolos, ils pètent les scores et il y a moyen qu'ils prennent la ville.
Moyen qu'ils prennent... Ah oui, la ville. Oui, d'accord, oui. Je vois ce que tu veux dire. Très bien, on va passer à la question suivante puisqu'on a bien parlé du FN, même si c'est quand même intéressant de parler du FN parce que c'est quand même probablement la troisième femme en l'occurrence de l'élection, et que si on se retrouve avec Marine Le Pen, ce serait quand même un événement politique qui serait grave, et je pense en plus que la France était ridiculisée à mettre Le Pen au second tour pour pour 2002. Là, est-ce que la France va peut-être probablement se ridiculiser encore une fois pour 2012? On va rentrer dans le vif du sujet avec le PS.
Le problème, c'est que je suis juste une embardée sur l'extrême droite, mais si c'était que en France où il se passait ce genre de phénomène, ce serait encore pas trop grave. Mais le problème, c'est que dans tous les pays européens, aujourd'hui, l'extrême droite, elle est en pointe. Quand tu vois qu'en Italie, la Ligue du Nord, elle fait des scores faramineux aux dernières élections régionales et que je crois qu'ils ont la majorité dans certaines régions. Quand tu vois l'Autriche, quand tu vois les Pays-Bas, quand tu vois la Belgique, tout ça, c'est quand même relativement inquiétant aussi. Et je pense que... Enfin voilà, c'est aussi une tendance un peu générale et qui touche pas que la France, quoi.
Alors, j'ai les résultats du sondage pour... Alors attends, je suis en train de regarder le résultat du sondage de 20 minutes pour l'élection présidentielle. Alors, j'ai pas les bons chiffres. Enfin, j'ai pas les bons articles en l'occurrence. Alors, présidentiel.
Alors, il a des sondages qui nous annoncent que Giscard pourrait être élu, mais c'est pas encore sûr.
Ah, oui.
Que Georges Marchais va peut-être faire 12%. Mais je pense qu'il faut que tu lises ton journal.
Ah merde, j'étais sur Minitel. Quel débile. Alors voilà, Marine Le Pen est en hausse, mais ouais, mais c'est de la vidéo, alors c'est pas drôle. Bon bref, on s'en fout. On va parler donc du PS. Ton son, Adrien, est redevenu un peu moyen.
Mais vous êtes sûr que c'est moi ?
Oui, je suis sûr que c'est toi. Alors,
bon,
on va rentrer dans le vif du sujet. Le PS, qui est en ce moment au cœur de tous les débats. Comme j'ai dit, un sondage récent montrait que DSK battrait Sarkozy avec 64% des voix. C'est énorme. Et c'est vrai que moi, quand j'interroge mon entourage, alors c'est vrai que je fréquente un taux de
comment ça s'appelle ? Strauss-Kahnien.
Voilà, non, de mecs de droite. Mais de droite bien
dur. C'est pareil, non ?
Comment ?
C'est pareil, non ?
Non, non, c'est pas FN, hein, c'est alors
non, être non, dit, non, c'est pareil que Strauss-Kahnien.
Non, c'est pas. Oh, oh, oh. Non, mais donc voilà. Et moi, ce que j'ai entendu et c'était intéressant, c'est moi, je ne voterai pas pour un candidat du PS. Peut-être Dominique Strauss-Kahn. Et ça, j'ai entendu quand même 2-3 fois. Donc bon, c'est quand même intéressant de voir ça. Alors la question, c'est Dominique Strauss-Kahn, c'est un homme providentiel pour le PS. On est d'accord là-dessus ou pas du tout?
Tu veux répondre, Adrien, ou...
Non, je t'en prie.
Ma aide. Pour moi, je vais être dur, hein, mais DSK, pour moi, est l'homme qui... Là où... comment s'appelait-elle ? Oh, déjà, c'est pas vrai.
Royal.
DSK peut réussir, c'est-à-dire, elle a échoué à quoi, Royal ? Elle a échoué à faire imploser le PS. Et DSK peut faire imploser le PS. Parce que Royal nous a sorti la candidate PS de droite, mais pas complètement, donc ça tenait encore en resserrant les apparences. DSK, pour lui, c'est assumé. Il est de droite décomplexé. C'est-à-dire, si on prend sa politique...
De droite décomplexé, faut pas abuser non plus. Hein.
Bah, enfin, il est président du FMI, quoi, quand même.
Il est président du FMI.
Pas exactement.
C'est juste le bras armé de toutes les politiques capitalistes dans le monde aujourd'hui. Quoi.
Ouh, là, tu t'engages assez...
Ah bah oui, on s'engage, mais sa politique, lui aussi, il s'engage. Sa politique, ça a été quoi ? Ça a été d'augmenter la durée du travail, de repousser les retraites de 5 ou 6 ans, je crois, c'est ça, en Grèce, de diminuer les salaires de 12% et d'augmenter les impôts de 25%. Pour moi, c'est la pire des droites, ça.
Alors, il y a quand même une différence, c'est que Dominique Strauss-Kahn a quand même... Un passé d'élu, il a quand même été maire de Sarcelles, et Sarcelles c'est pas la ville la plus à droite au monde, et que j'avais entendu ça dans une émission, c'était il y a longtemps, c'était en août ça, et en gros on disait dans cette émission que les élus communistes de Sarcelles étaient globalement contents de ce qu'il avait fait, et que qu'ils avaient réussi à travailler avec lui sans grosse difficulté. D'autre part, de ce que rapportent les analystes internationaux, alors mis à part le fait que contrairement à ce, en France, le FMI ne fait pas une si bonne politique que ça, parce que j'avais quand même entendu vu dans un article que le New York Times ou je sais plus quoi avait titré un article du genre est-ce que les avis du FMI valent mieux que un clochard dans le caniveau. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Dominique Strauss-Kahn est arrivé au FMI, eh bien, il a mené quand même une politique de social-démocratie. Il était quand même beaucoup plus à gauche que l'institution de départ. Alors, ce que The Bully dit, je crois que c'est un pote de Borloo niveau Jaja.
Oui, mais... Non, mais les... Alors, autant j'ai pas été très tendre avec DSK, autant j'irai pas critiquer... Du point de vue personnel, sa vie, ce qu'il peut faire avec son zizi ou ce qu'il peut faire au niveau de l'alcool. Franchement, tant que c'est le soir et pas pendant qu'il prend ses décisions politiques, c'est son problème. Je pense que ça n'a pas vraiment à nous concerner. Autant, vraiment, non, je pense que DSK, objectivement, je pense qu'il n'existe pas politiquement.
Mais tu penses que c'est...
Ces sondages sont truqués. Je pense que, si tu veux, DSK, c'est quoi ? On se replace en 2007. DSK, c'est un loser. DSK, c'est un gros loser qui a tout perdu. Et comme il était de droite, objectivement, enfin, je veux dire, tu le vois très bien dans tout un tas de cadres syndicaux, quand on discute avec les Strauss-Kahniens, DSK est de droite. Et si tu veux, Sarkozy s'est dit comment faire, il a une seule question en tête depuis 2007, c'est comment faire pour gagner 2012. Et il a bien vu qu'il a pu gagner 2007 parce que en face, on proposait, comme disait Pop Goes Vza, là, pourquoi préférer la copie à l'original ? Eh ben, DSK, c'est une putain de copie de Sarkozy. Et en plus, c'est un pion de Sarkozy. Parce que, comme il allait mener cette politique de droite, Sarkozy lui a donné une place médiatique, le président du FMI, et dans les journaux, on en parle à fond, on monte ça en épingle, alors qu'il n'était même pas en France, donc il n'existe pas politiquement en France. On monte ça en épingle pour que sa candidature passe, et s'il passe, alors là, le PS est sûr de se rétamer, parce qu'il serait la copie conforme de l'UMP avec, pour différence, que je reconnais, et qui serait quand même déjà très bien, hein, pour le coup, en positif, ne pas avoir les dérives... Je veux pas dire de... les graves dérives de la clique hortefeux et tout ça. DSK n'aura jamais ce type de dérive. Ça, c'est très bien. Mais pour tout le reste, c'est la même.
Ouais, faut pas déconner non plus, hein, parce que s'il propose un programme de droite, il va clairement pas se faire élire.
Bah moi, sur tout ça... comment dire, DSK sur... je pense qu'en même temps, il est providentiel pour le PS, quoi. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'ils arrivent à relever la barre s'ils ont pas de DSK. Mais en même temps, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, du fait que le PS aujourd'hui, ils ont un boulevard avec toute la politique qui a été menée par Sarkozy pendant les 4 dernières années, je pense que... prendre DSK comme candidat serait rouler avec le frein à main, quoi, pour prendre un peu un parallèle un peu bizarre, mais c'est-à-dire
c'est sûr que prendre Ségolène Royal, c'est beaucoup moins risqué.
Je pense que c'est pareil, mais disons que quand t'as une politique qui est vraiment hyper dure face à toi de droite et que tu prends quelqu'un qui est quand même pas franchement reconnu pour être hyper ancré à gauche, quoi, on va dire ça comme ça pour être sympa, je suis pas sûr que t'arrives à être vraiment crédible si tu veux proposer une alternative. Et c'est ça aujourd'hui le problème du PS s'ils ont DSK, mais c'est le même problème par ailleurs s'ils ont Ségolène Royal ou d'autres gens, quoi, parce que...
Mais alors justement, moi, tu vois, pour te répondre, je pense que c'est, enfin, je suis absolument, je partage totalement ton analyse, Adrien, et tu le dis avec des meilleurs mots que moi, mais je pense justement qu'il leur faut quelqu'un qui puisse, on va pas juger sur le fond, mais qui puisse se donner une image de gauche, à être vraiment opposé la gauche et
oui,
la
mais,
droite.
Oui, mais attends,
et,
de l'autre côté,
ça,
quand
je
tu...
Pense, je pense qu'Aubry, et je soutiens pas forcément politiquement Aubry, mais Aubry, elle, aurait cette aura de gauche avec les 35 heures, cette aura sociale, qui, à mon avis, est la seule dont peut se parer le PS pour pouvoir gagner.
Oui, mais après, de l'autre côté, on va avoir des candidats, en particulier Sarkozy, qui va dire « Vous voulez vous voter pour la femme des 35 heures ?» Et quand tu vois...
Mais justement, allons-y. Faut pas qu'ils aient peur. Faut pas qu'ils aient peur de ça.
Faut qu'ils l'assument.
Faut qu'ils assument ce qu'ils font de bien, parfois. Après, les 35 heures, il y avait un truc quand même pas hyper
social. C'est ton avis que c'est bien.
Mais, pardon ?
Ouais, mais
c'est ton avis que c'est bien, c'est pas partagé par tout le monde.
C'est l'avis des électeurs PS, a priori.
Mais, a priori.
Oui, mais attends, PS... c'est pas les électeurs PS qu'il va falloir convaincre, c'est
et
la
c'est
France entière, dans le sens.
Ouais, mais déjà, s'ils arrivent pas à convaincre les électeurs PS, il y a un problème, quoi.
Oui. Ils ont même plus leur base. Parce qu'ils font plus une politique de gauche. C'est ça le vrai problème du PS. Il faut soit qu'ils se scindent entre ceux qui sont encore de gauche, les Aubry, les Hamon et compagnie, et ceux qui sont clairement de centre-droit à minima, comme les Royal et les DSK.
Je trouve quand même que t'exagères quand même.
Soit qu'ils se recentrent sur une politique qui donne une image d'une politique de gauche. Et j'ai pas dit une politique d'extrême gauche, hein. J'ai pas dit il faut que le PS prenne les armes et fasse la révolution. Mais j'ai dit, le PS, s'il veut gagner face à une politique de droite dure, il peut pas y opposer une politique de droite arrosée de quelques touches sociales.
Oui, mais le problème...
Comme en 81, pour gagner, la gauche doit arriver avec des ambitions fortes. Et être fier, et être... On a une droite décomplexée, Pour gagner face à une droite décomplexée, il faut une gauche décomplexée, fière de ses valeurs.
Et est-ce que, par exemple, un ticket Aubry DSK, ça pourrait être une bonne idée ?
Un ticket Aubry DSK, de toute façon, je pense que DSK, enfin, il n'y aura pas de DSK ou d'Aubry sans que l'autre ne soit d'accord.
Donc, on est clair, on est clair. Mais par exemple, DSK président et Aubry premier ministre.
Bah, de toute façon, si DSK est président ou si Aubry est présidente, il faudra bien qu'ils trouvent quelqu'un comme premier ministre. Et donc, a priori, ce serait quelqu'un du PS s'ils sont un peu raisonnables.
Bah, dans un sens, ça permettrait de contenter les deux.
Oui, oui, peut-être. Ouais. Moi, je t'avoue que j'ai jamais vraiment réfléchi à la question dans ce sens-là. Mais ça peut être un truc pour eux, quoi, avec les limites qu'on disait tout à l'heure sur la DSK, quoi.
Il y a un truc dans ce que tu dis qui est marrant et qui pourrait être un facteur, à mon avis, d'une impulsion d'une campagne. C'est le fait du ticket, comme tu parles, DSK Aubry ou n'importe qui d'autre.
Du flow joli, comme ça avait été pressenti.
Voilà, mais il y a parce que pour le moment, dans les dernières élections, il n'y a jamais vraiment eu de ticket. On n'est pas comme les Américains. On ne dit pas je vais au combat et ce sera lui mon premier ministre. C'est je suis élu et le lendemain, pouf, j'annonce un premier ministre.
Oui, parce qu'on est dans un régime présidentiel.
Voilà, et peut-être que cette innovation de dire votez pour moi, mais en même temps, si vous n'êtes pas complètement pour moi, il y a le premier ministre qui sera machin. Peut-être que ça peut être un truc un petit peu porteur de nouveautés. Tu sais, il faut toujours il y a moyen de trouver un super bon slogan qui va avec.
Je pense que le slogan, ce serait par exemple prenez le pouvoir ou un truc dans le genre. C'est-à-dire, vous avez l'impression que Sarkozy vous a lésé, que vous avez eu l'impression de ne pas contrôler la situation, et ben là, le PS va permettre de vous le reprendre. Je pense que c'est une des pistes à explorer pour un slogan comme ça. Mais enfin, je suis pas j'essaie d'être le plus apolitique possible dans mes podcasts, donc après, je vais pas non plus faire des conseils pour le PS.
En même temps, peut-être qu'ils en auraient besoin. Hein.
Oui, alors, c'est vrai que... Bon, en même temps, je sais pas si ces gars-là est un très bon conseil pour faire des slogans politiques, maintenant. Martine Aubry, elle a une Swatch. Et elle a plus de 50 ans.
Voilà.
Alors, on va juste avant parler d'une question qui me paraît intéressante. Quid de Royal qui part en campagne ? Est-ce que vous pensez que c'est une... Enfin, alors, il y a Royal qui part en campagne, il y a Valls qui fait le réformateur libéral avec les 35 heures, donc qui essaie de se placer à droite. Il y a Hollande qui, bon, le petit problème...
C'est qu'il y a de la concurrence quand même à la droite du PS, hein.
Hollande n'est pas spécialement à droite, hein.
Non, mais je parle de Valls. Entre Valls et DSK, il y a... Mais c'est pas tout à fait sur le même terrain, quoi. C'est-à-dire que DSK, il est plutôt de droite sur le terrain économique et Valls, il est plutôt de droite sur le terrain idéologique, quoi, on va dire.
La question, c'est qu'est-ce que cherchent tous ces Royal, Valls, Montebourg, Hollande ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Est-ce qu'ils cherchent à faire imposer le PS ou juste à essayer de gagner une légitimité pour peser dans le débat politique ?
Moi je pense pas qu'ils aient comme objectif de faire sauter le PS, sinon ça fait longtemps que le PS aura déjà sauté vu tout le bordel que c'est depuis 2002.
Ça c'est bien dit ça.
Mais je pense que aujourd'hui c'est tellement le bordel dans ce parti, il y a tellement de pas de boussole idéologique qu'en fait chacun pense un peu ce qu'il veut et vu que c'est des gens qui sont là plus par... je parle des dirigeants, je parle pas des militants, mais qui sont là plus par besoin de faire une carrière politique que par réelle conviction de ce qu'ils disent. Je pense que ça donne tout le bordel qu'il y a en ce moment avec Valls qui fait des déclarations qui sont vraiment à la limite du racisme. J'ai pas d'autres gens comme ça, mais il y en a d'autres comme.
Alors, Pop Goes the dit Royal cherche à occuper l'espace du PS pour se rendre incontournable. Je trouve que c'est très bien résumé.
Oui, je suis d'accord. Ouais.
Oui, non, c'est ça. Et puis, Royal a aussi, elle aussi, très clairement, est ce qu'on appelle une présidentiable. Valls et Montebourg ne le sont pas, mais eux, à mon avis, la palissade, mais eux, ils cherchent à occuper un petit espace pour se rendre ministrable, incontournable. Si le PS venait à remporter les élections.
Est-ce qu'on peut calmer les égos au PS ?
Est-ce qu'on peut calmer les égos ?
Ou ça sert pas à grand chose ?
Antoine, il a dit un truc très sectaire là, mais je pense que le problème des égos, c'est que c'est les gens là, c'est ce que je disais, mais les gens ils sont là pour faire des carrières et ils sont pas là pour autre chose. Donc s'ils font. S'ils arrivent pas à se faire élire, il y aura un problème quoi.
Alors, l'autre truc. Oui, alors c'est une question qui me paraît intéressante. On va avoir en novembre, on va avoir les élections. Je sens que vous suivez.
Oui.
Ce sera les élections en novembre. Voilà, ce sera les élections sénatoriales.
Sénatoriales, oh là, mais ça sert à rien ça.
attends, ça sert à rien. Juste, le Sénat va passer à gauche.
Ouais, d'accord. Peut-être.
Donc. Est-ce que c'est... Alors, la question, c'est... On va avoir le Sénat qui va être à gauche. Ce qui va achever de faire que toutes les institutions, mis à part la présidence de la République et les élections législatives, qui sont quand même liées, hein, les deux, soient tous à gauche. Donc, tous les échelons de l'État, du plus local, c'est-à-dire les maires et tout, au Sénat, seront contrôlés par la gauche. Et la question, c'est... Est-ce que c'est une obligation pour le PS de gagner en 2012 je termine la question. Le fait que le Sénat passe à gauche va entraîner, si la droite gagne en 2012, que ce soit Nicolas Sarkozy ou... Non, Nicolas Sarkozy. Ça va entraîner un blocage politique. Puisque on voit déjà le bordel que c'est entre les élus locaux et les élus nationaux, avec notamment le projet du Grand Paris, où t'as Jean-Paul Huchon, l'élu local, qui milite pour le projet de l'Arc Express, qui est un projet de train, machin. Et de l'autre côté... tu as donc le truc national avec Santini, etc., qui défend un autre projet qui est le Grand 8 ou n'importe quoi. Et donc, en fait, ça pose un gros bordel parce qu'il y a deux projets différents, un du PS, un du MP, et ils se fritent sans qu'on, et ça ralentit le débat sans qu'on sache vraiment qui va gagner. Et donc, le fait que le Sénat passe à gauche va encore plus accentuer ce côté-là, puisque, par exemple, des lois Hadopi, des lois comme Hadopi ne passeront pas, ou feront la navette parlementaire, et au final, l'adoption de la loi sera considérablement ralentie. Et de l'autre côté, alors ça c'est, je réfléchis à beaucoup plus long terme, alors on peut dire que c'est carrément de la politique fiction à très très long terme, mais moi je vois quelqu'un débarquer de plus en plus sur la scène politique, et si j'étais à la place de Martine Aubry j'aurais vraiment très peur, c'est Jean-François Copé. C'est-à-dire que ce mec-là, il a, en tout cas moi je sais, ma sœur qui est pas très, politisée et qui est pas spécialement politisée à droite, a dit « Ah tiens, Jean-François Copé, je le verrais bien président ». Et ça montre quand même que Jean-François Copé a pris une importance sur la scène politique, et je trouve, je partage pas forcément ses idées, mais je trouve que Jean-François Copé est un des meilleurs politiciens de sa génération. Donc en fait, si la droite perdait, premièrement ça entraînerait une situation de blocage politique pendant le mandat de Sarkozy, et deuxièmement, la prochaine échéance du PS, ce sera pas tellement 2017 parce que Jean-François Copé pourrait cannibaliser énormément de voix, d'autant plus que l'UMP aura 5 ans pour se préparer pour cette campagne, ce serait peut-être 2022. Donc, vous voyez, est-ce que le PS a plus ou moins une sorte d'obligation de gagner en 2012?
Bah, 2022, de toute façon, on sera tous morts, hein, si j'en crois, le calendrier aztèque et post-carbone. Alors, moi, Copé, je suis content que tu parles de Copé, parce que c'est un type dont je pense qu'il faut parler. Il est caractéristique de... Pour moi, je vais être méchant encore, de l'homme politique dans toute sa splendeur. Pour moi, je ne comprends pas comment cet homme peut exister politiquement, parce que, je sais pas, j'ai l'impression d'être le seul à le voir, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il pouvait pas faire de la télé, de la politique à partir du moment où il y avait de la télé. Quand il parle et dans ses attitudes, il transpire le fait qu'il ne pense pas un mot de ce qu'il dit. On a en permanence l'impression qu'il joue un personnage et qu'il se moque de nous, avec un sourire qui frôle la médisance à chaque moment. Je ne sais pas.
C'est ton opinion personnelle,
complètement...
ça.
Ah oui. Mais il a l'air complètement faux. Et il est caractéristique pour moi de je sais pas, de ce que j'imagine comme la droite, tu vois, dans mon concept de sale gauchiste de merde. Mais il est caractéristique de ça, de « je me moque de vous ». Regardez, tiens, je suis en train non seulement de faire des lois qui vous arrangent pas, mais en plus, je vous l'ai dit avec le sourire, ouais, ça va vous arranger, victoire, paf paf, badaboum. Comment quelqu'un peut croire à ce qu'il raconte? Pas à mais ses idées, mais la façon dont il dit, sur la forme, il me paraît totalement impossible d'être que ce mec-là soit cru sur la forme dont il parle.
Mais sur Copé, moi, je sais pas, sur ce que dit Broche, je suis en partie d'accord, mais pour moi, ce mec, il prend de l'importance aujourd'hui et clairement, il prépare l'après Sarkozy, quoi. C'est-à-dire qu'il essaye de se placer en pole position pour que, une fois que Sarkozy ne pourra pas être réélu, ce sera lui qui soit le candidat légitime et tout ça. C'est pour ça que il a réussi à se placer à la présidence du groupe UMP à l'Assemblée au début du mandat, puis maintenant qu'il est devenu président de l'UMP, etc. Voilà, c'est un mec qui il est stratège et il pense à plus long terme et voilà. Bon alors après.
Oui mais attends, de l'autre côté, on disait ça pareil de Sarkozy en 2002.
De quoi que qui commençait à se placer.
Il respirait la fourberie, que comme il transpire la fourberie. Dit.
Il ne fait pas que la transpirer, Sarkozy par ailleurs, mais.
Oui, mais il avait quand même une mauvaise opinion en 2000 à l'époque. Donc bon.
Ouais. Mais après bon, c'est vrai que Copé, je pense que c'est quelqu'un qui est fort quoi. Je pense qu'il arrivera à tirer son épingle du jeu sur la scène politique. Mais après faut se méfier aussi des personnes qui apparaissent trop tôt comme le futur présidentiel quoi. Parce que bon pour Sarkozy ça a marché entre 2002 et 2007, mais il y a plein de gens qui étaient assurés d'être le futur président ou le futur candidat de tel ou tel parti à certains moments et qui au final ça a été complètement autre chose quoi. Donc voilà, qui se méfie un peu.
Pas encore l'avenir.
Non, je n'ai pas de boule de cristal devant moi.
Non. Bon, alors on a parlé du PS maintenant. On va aborder la dernière partie de l'émission, enfin l'avant-dernière partie de l'émission pour être plus précis. Sarkozy est actuellement au plus bas dans les sondages. donc il est battu par tout le monde, même par Ségolène Royal. mais il reste 15 mois avant la présidentielle. Sarkozy contrôle les médias. Enfin, c'est un peu fort de parler comme ça, mais enfin il a une grande emprise sur les médias. Il sait comment marchent les médias. Truc dit, la France peut-elle devenir une coopérative? Calembour. Sarkozy est une bête politique. Il a l'expérience du pouvoir. Le PS n'est pas spécialement dans sa meilleure forme, enfin ça n'a jamais été dans sa meilleure forme. Je crois que j'ai tout dit. La question c'est, malgré justement tout ça, Adrien, ton son est pas top. Je sais que tu es pour rien, mais essaye de.
J'y suis pour rien. C'est à chaque fois qu'on parle, le bruit de fond se retire, et à chaque fois qu'on arrête de parler, le bruit de fond revient. Ça fait ça pour moi et Broche en fait.
Alors le truc c'est, est-ce que Sarkozy peut encore gagner?
Bah a priori oui, enfin moi pour l'instant je vois personne d'autre que lui gagner quoi, donc voilà.
C'est, ah ouais, c'est carrément triste, normal mais, quoi.
Je pense qu'aujourd'hui il y a personne qui ait suffisamment de crédibilité et de fonds politiques pour pouvoir battre Sarkozy aux prochaines élections présidentielles. C'est triste hein, je suis le premier à le déplorer, mais voilà.
Donc toi tu penses que les jeux sont faits?
Je pense que, en tout cas, au stade actuel, là où on en est aujourd'hui, Sarkozy gagnera les élections présidentielles. Enfin, si c'est dans 2 mois, c'est Sarkozy qui gagne. Après,
c'est les sondages, non, sûrement pas.
Oui, mais si t'étais dans une période d'élection présidentielle, Sarkozy il apparaîtrait aussi beaucoup plus et tout ça. Donc c'est pour ça que je dis ça comme ça. Mais honnêtement, moi, je le pressens en tout cas. Hein, Enfin, je vois mal en tout cas Ségolène Royal battre Sarkozy à une élection présidentielle aujourd'hui. Voilà. Mais c'est peut-être qu'une intuition personnelle qui sera complètement fausse, hein, je l'espère.
Écoute, je sais pas, Antoine.
Non, mais moi je partage complètement cet avis. Effectivement, on est dans une période où il y a un très fort anti-sarkozisme et d'aucuns pensaient que Sarkozy ne finirait même pas son mandat, qu'il serait expulsé d'une façon ou d'une autre. C'est des choses que j'ai entendues ici et là il y a quelques années encore. Pardon. Pour autant, il me semble que il y a une puits. Effectivement, comme disait Adrien, c'est le seul à avoir le fond politique pour être capable de d'écraser ses opposants lors d'un débat. Il faut être clair, il y a une machine médiatique qui roulera pour lui et qui sera au pas, et elle est bien huilée. On l'a vu notamment, alors avec ce que, bon, l'analyse que je faisais de DSK portée par les médias, qui, à mon sens, DSK en tant que candidat au PS, est une clé assurée pour la victoire de Sarkozy au second tour. La montée de Marine Le Pen, qui est aussi une clé assurée pour la victoire de Sarkozy au second tour. Tout ça, ça concorde vers aider Sarkozy. En plus, il va nous le faire à la Realpolitik en disant « Je suis le seul à avoir eu le courage de réformer les retraites. Vous allez tous en chier pendant des années. Mais c'est grâce à moi qu'on a sauvé le système et compagnie. » Et ça, tu vas avoir pendant 6 mois des économistes sur toutes les chaînes de radio qui te le rediront à tire-larigot. Moi, effectivement, je pense que si, sauf événement exceptionnel, il va gagner.
Ok, bon, bah, bienvenue dans News Talk, hein, voilà, on vient de l'apprendre. Même Dominique Strauss-Kahn ne pourra pas battre Sarkozy. Bon, on est quand même, c'est beaucoup de prévisions là pour l'instant, on est quand même à 15 mois de l'élection.
Non, mais après, oui, voilà, on n'a pas de boule de cristal et on peut pas savoir comment ça va se dérouler dans les faits, mais. Nous, c'est comme ça qu'on voit les choses, en tout cas pour l'instant, quoi.
Vous en attendez quoi de la campagne, en fait ?
Bah, le plus de politique possible, quoi. C'est-à-dire que qu'on évite de se retrouver avec une campagne comme en 2007, par exemple, où on a parlé de sécurité pendant un an et où on n'a pas parlé des vrais problèmes que
les
sont
Français sont
l'emploi,
plus quand même intéressés à la politique en 2007 qu'en 2002, quand même. Hein.
Oui, complètement. Mais tu vois, pendant les élections présidentielles de 2007, il y avait des gens qui se battaient pour leurs emplois, il y avait des boîtes qui étaient menacées de comment on dit, délocalisation, qui étaient en lutte et tout ça. Les candidats des principaux partis sont passés complètement ailleurs pour ne pas parler du tout de ces thèmes-là et préférer parler d'autres choses. Voilà, moi ce que j'espère vraiment, c'est qu'on arrivera à faire de la politique sur des sujets qui ont vraiment un impact sur la vie des gens, quoi, et pas simplement sur des trucs qui sont de l'ordre du fantasme, quoi.
Vous pensez que les... Alors là, on va parler
Si je peux me permettre, j'attends un autre truc. C'est peut-être clientéliste de dire ça, mais je l'attends vraiment, un autre truc de cette campagne.
Ça tombe bien, je vais l'aborder.
Ah, d'accord.
Vas-y. Donc justement, j'ai pas besoin de faire de questions, c'est parfait.
Ok. J'espère que le sujet qui nous intéresse un peu tous, nous et j'imagine les auditeurs, à savoir la technologie, et Internet, va devenir plus prégnant. J'espère qu'on se posera la question de savoir comment améliorer notre démocratie pour la rendre plus, entre guillemets, même si j'aime pas le mot parce que je suis pas royaliste, plus participative grâce à Internet. Je veux dire, ça fourbille d'opinions contraires, mais débats comme aujourd'hui, et dans la chatroom comme à l'antenne, de débats politiques qui avaient que dans des comptoirs, c'était des discussions de comptoir avant Internet, tu vois, ça avait pas d'intérêt. Et là, sur le net, dans des forums, on peut lire des posts de types qui ont vraiment réfléchi, qui ont plein d'arguments et qui arrivent à me convaincre.
Ah oui, le lolcat de Sarkozy, ah oui.
Et j'espère vraiment qu'on va essayer de réfléchir sur comment utiliser Internet pour améliorer nos démocraties, plus que simplement comment utiliser Internet pour se faire élire.
Et donc vous bien entendu, Polygeek, vous allez essayer de mettre en place un dispositif spécial présidentiel.
On est en train d'y réfléchir en ce moment, donc on ne dira rien. Mais on va sûrement essayer de faire un truc un petit peu spécial pour l'occasion, sur les 2-3 mois qui précèdent, pour essayer de couvrir la chose de façon un peu efficace, quoi.
Ok, dernière question, est-ce que vous pensez que le taux de participation en 2012 sera supérieur à celui de 2007, enfin sera très inférieur à celui de 2007, c'est plus la question.
Pour moi, ça dépend de comment va se passer la campagne. Et c'est un truc qu'on peut pas dire à l'avance. C'est-à-dire si on a une campagne où c'est intéressant et où les gens ils se sentent concernés par ce qui se passe et où en gros tout est pas plié 10 000 ans à l'avance.
Enfin,
a priori, il y aura plus
ça,
de gens qui vont voter. Sinon, je pense qu'il y aura moins de gens qui vont voter.
Oh putain, tu t'engages, hein. Soit il y aura plus de gens, soit il y en aura moins, soit ce sera pareil.
J'ai dit si la campagne est intéressante, il y aura plus de gens qui vont voter, sinon non quoi.
Recommander le prochain président sur priceminister.com, dit le truc.
Ah, mais Kosciusko Morizet, il a démissionné, non? Ah non, c'était pas Price Minister, je sais plus.
Si, mais maintenant il est le président du Conseil du Numérique, une nouvelle institution faite par Sarkozy.
Et oui.
Ok, Antoine, est-ce que tu as... Alors, on va conclure. Antoine, est-ce que tu as des choses à dire?
J'ai toujours des choses à dire dans la vie, mais sur la campagne présidentielle, non, je pense que ton émission...
Sur les sujets qu'on a abordés plus généralement.
Non, moi, je... Un vœu, vraiment, pour cette campagne, que la gauche, dans son ensemble, mène une politique de gauche. Sinon, elle va perdre. C'était les leçons qui étaient tirées par un candidat que j'ai pas forcément soutenu d'ailleurs, mais si je me trompe pas, Besancenot avait dit au soir du second tour, quand la gauche mène une politique de droite, elle perd. Et c'est évident que le même schéma produira les mêmes causes produiront les mêmes effets.
Ok, Adrien.
Non mais j'ai fait beaucoup de prédictions là, mais bon, je pense que en vrai on peut pas du tout savoir comment ça va se passer tout ça. La seule chose qu'on peut un peu espérer sur les prochaines présidentielles et sur le débat politique dans son ensemble dans les mois et les années qui viennent, c'est que y a un peu une clarification aussi sur qui pense quoi, parce que aujourd'hui c'est pas tout à fait clair, et je pense que c'est aussi pour ça que y a moins de participation dans les élections, que les gens ils s'intéressent pas trop à la politique, c'est que les frontières elles sont floues entre la gauche, la droite, tout ça, entre la droite et l'extrême droite, entre la droite, le centre, la gauche, voilà. Et je pense que si les débats étaient un peu plus tranchés, ça faciliterait aussi des prises de position et ça aiderait à simplifier le débat politique.
Ok, merci à vous deux d'être passés. On rappelle votre podcast Polygeek.
Ouais, www.polygeek.fr. On essaye de faire ça toutes les deux semaines et voilà.
Prochain, merci le mardi prochain, invité. Si je ne me trompe pas.
Vendredi prochain, enfin moi il y a la,
vous faites plus le mardi maintenant.
Site internet de Polygeek.
Non, ce sera jeudi prochain, il me semble, parce que
on est pas d'accord.
Si on est d'accord, ce sera jeudi 27, parce qu'on a un invité. Je tease un peu, mais un invité qui était partie prenante dans l'affaire d'Emeporg, qui sera sur le plateau pour nous parler.
Non,
tout ça.
Ne me dis pas que tu auras le chroniqueur des Meporg.
Ah, je dis rien. Je dis rien. Faudra être là.
D'accord. Donc on rappelle les horaires de diffusion. Donc en théorie tous les. Alors normalement je sais pas quand est le live de Polygeek, puisque là je sais plus si c'est le mardi, le jeudi, le vendredi.
En fait ça change à chaque fois.
Vous avez pas intérêt à le faire le vendredi, parce que vendredi c'est mon créneau, bordel.
D'accord.
Donc Polygeek diffusé le... Alors là, placement produit encore une fois. Probablement William Lémergie, ça ce serait assez drôle. Faudra que vous lui demandiez de chanter la chanson Pac-Man qu'il avait faite dans les années 80, qui est d'ailleurs assez ridicule.
Pourquoi pas.
Mardi 18h15, jeudi 14h, samedi 15h30 pour Polygeek sur Pod Radio. News Talk, on va rappeler nos horaires à nous. Lundi 10h45, lundi 17h, mercredi 17h, jeudi 15h30, vendredi 18h30, samedi 14h. Voilà, vous pouvez retrouver News Talk sur deconcast.fr, forcément, avec tous les anciens épisodes et encore plein d'autres trucs avec les chroniques tech, les matinales, etc. Vous pouvez nous trouver sur iTunes, laisser des commentaires, soit dit en passant. Sur Twitter, pas tellement, enfin sur le compte de Pod Radio, Facebook aussi. Le prochain News Talk, ce sera le News Talk 8, ce sera le 11 février, dans 3 semaines donc, à 19h. On aura en direct de la cave du Capitaine Xavier Delaporte, l'animateur de Place de la Toile sur France Culture, la. Le seul grand format consacré à la nouvelle technologie sur la radio publique française. Pascal Cardona de France Bleu, Radio France, bon, Et puis POF, Phil et moi, enfin votre serviteur, qui sont aussi trois animateurs d'une radio, sauf que là c'est Pod Radio. Ça a tout de suite moins de classe. On parlera non, donc des rapports entre.
C'est l'avenir. Comment
c'est l'avenir. On parlera des rapports entre les nouveaux médias et les médias traditionnels. Ils seront bien placés pour en parler, donc ce sera assez radiophonique niveau débat, mais ce sera pas inintéressant puisqu'on verra un peu justement comment est-ce que les médias traditionnels réagissent à l'arrivée d'Internet. Voilà, pour réagir à l'émission, cette émission la prochaine, donc sur les nouveaux médias, 09 72 11 00 20 ou lesmeb@podradio.fr ou les commentaires de Déconcast pour réagir. Laissez des commentaires sur iTunes ou des commentaires sur Déconcast.fr parce que c'est vraiment super important parce qu'on a l'impression, on sait qu'on est écouté. On va dire que les statistiques Feedburner, bon, elles sont pas excellentes non plus, mais c'est quelque chose. Mais savoir que vous êtes là, que vous participez au débat, ça nous fait chaud au cœur, quoi. Voilà. Merci Antoine d'être venu.
Ben merci à toi, hein, c'était hyper sympa. Et puis, j'ose pas recommander ton émission dans ta propre émission parce que si les gens sont arrivés jusqu'ici, que de toute façon ils sont restés. Mais on la recommandera évidemment dans Polygeek. Et puis, à refaire.
À refaire, ouais. Merci Adrien aussi d'être venu.
Ben merci à toi de nous avoir invités. Et puis tout pareil, Quentin, hein.
Donc voilà, merci à toi auditeur aussi, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On ne dévoilera pas les statistiques parce que c'est complètement secret et que c'est un peu honteux, mais bon, c'est vachement cool, merci beaucoup à vous. Voilà, donc à dans 3 semaines et vive la Tunisie libre. Salut.
Mes chers compatriotes,
en 2000, il y a 20% de la population des pays riches qui consomment 80% des ressources naturelles. Alors, ce ne serait pas grave si la planète était une planète avec des ressources infinies.
Hello, America. I'm Julian Assange. It's time to leave.
Yes, we can. Thank you, Brad.
Je suis aware. Je me suis réveillé. Quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce...
Politique attendre d'ici avril 2012, c'est le sujet de ce... Ah, mais merde, on n'est plus au début de l'émission. Bon, allez, salut.